Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Bernard Poiret.
Je ne suis pas tout seul, bien sûr, à refaire le monde à ce micro le vendredi soir, mais ils sont trois, les polémistes du vendredi. Ce soir, qui sont-ils? Il y a d'abord, honneur aux dames, Anastasia Colosimo, qui est enseignante à Sciences Po à Paris. Anastasia, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a également Alexandre Malafaï, le président de Sinopia. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir, Bernard.
Et puis le camarade Philippe Bailly, conseiller en communication. Salut, Philippe.
Salut, Tovalich.
Plus Cécile Decaize de RTL.fr, qui scrute avec sa grosse loupe ce que disent les réseaux sociaux de l'actualité. Salut Cécile.
Bonsoir.
Alors d'abord, que disent les réseaux sociaux, Cécile, de ce jugement en référé, je le précise, de la justice aujourd'hui, qui a donc débouté la CFDT cheminot, l'UNSA cheminot et la CGT cheminot. Pourquoi? Parce que les cheminots ne voulaient pas qu'on leur paye leur jour de grève depuis le début de leur mouvement, début avril, mais ils disaient qu'ils ont droit à un certain nombre de jours de congés payés quand même, même quand ils font grève. Et c'est sur ce calcul, justement, des jours de congés payés auxquels ils ont droit. Normalement, ils travaillent 5 jours et puis ils ont 2 jours de congés payés, bien évidemment, les cheminots, qu'ils se sont fait débouter par la justice. Mais sur le fond, ce sera jugé le 31 mai et on verra si le jugement du 31 mai invalide celui d'aujourd'hui ou pas. Il n'empêche qu'en première approche, comment les internautes ont-ils accepté ou pas, d'ailleurs, ce jugement des référés, Cécile?
Alors, Procop estime que la justice a la main molle envers la délinquance et la main plus lourde envers les travailleurs qui défendent leurs acquis sociaux. Mais je ne vous cache pas que peu de personnes partagent son avis. Excellente nouvelle, il manquerait plus que ça, peut-on lire par exemple. Mini estime que c'est enfin une bonne nouvelle et surtout pour les usagers qui subissent cette grève. Un internaute trouve cette décision normale et de bon sens. Finalement, Oli prédit que le syndicat qui a eu l'idée géniale de la grève perlée va s'en mordre les doigts. À son avis, le nombre de grévistes va considérablement diminuer.
Alors nous verrons, mais effectivement, si c'est confirmé le 31 mai, c'est un mauvais coup pour ceux qui veulent continuer la grève au-delà en juin, parce que la décote financière sur le salaire mensuel sera assez redoutable. Qu'en pensez-vous, Alexandra, de ce jugement? Alors, il n'est pas question de juger un jugement. En l'occurrence, c'est un peu difficile, on n'est pas des magistrats. Mais est-ce qu'il vous semble que ça pourrait, si c'est confirmé le 31 mai, mettre un coup d'arrêt au mouvement?
Mais je pense que le mouvement tel qu'il a été en fait initié dès le départ, c'est-à-dire cette grève un peu étrange qui est 2 jours par semaine, etc. C'est une première et c'était justement fait pour ça en réalité. C'est-à-dire que là on arrive à un point qui est assez important, c'est que c'est une victoire judiciaire, mais c'est aussi une victoire en fait sur la grève, puisque ce système qui avait été trouvé en fait est mis en défaut par ce jugement. Ensuite, il faut attendre le 31 mai. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un jugement des prud'hommes du Mans qui ont donné tort à la SNCF pour une affaire assez similaire. Mais on voit bien que la SNCF, là, la direction est un peu à court parce qu'ils essayent de tout faire pour cesser cette grève qui, quand même, est très, très pénible pour les usagers, qui est très pénible pour la direction. Et parallèlement à ce jugement, on a vu aussi qu'ils ont accordé des bonus, des bonis, d'ailleurs, il faudrait
des
dire.
Bonis,
des
dit,
bonis, ouais. Aux gilets rouges.
Ah bon
oui. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de logique où ils essayent de punir d'un côté et plutôt de féliciter de l'autre ceux qui ne participent pas à la grève. Donc ils essaient d'étouffer la grève à tout prix. Ensuite, c'est quand même une bataille judiciaire qui est assez compliquée. C'est la question du règlement interne de la SNCF. C'est pas dit encore. C'est pas gagné complètement pour la SNCF.
D'accord. Ça, c'est le point de vue d'Alexandra Colosimo. Qu'en pensez-vous, Philippe Bailly? Comment percevez-vous la chose?
Sur le fond et l'analyse pointue du règlement de la SNCF, je me garderai d'aller sur ce terrain. Mais surtout, ouais, ce que je trouve formidable, c'est qu'en moins de 25 ans, donc grève Juppé de 95,
oui,
à l'époque, on parlait, le sujet n'était pas le paiement des jours de repos, c'était le paiement des jours de grève.
Oui, oui, oui.
Il y a eu un vrai.
Il y a eu une époque où les cheminots faisaient grève et étaient payés pendant les jours de grève.
Enfin, les cheminots et d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un vrai glissement du climat social, enfin de l'acceptabilité sociale. Et effectivement, même aujourd'hui, et votre lancement était assez symptomatique, Bernard. Vous avez dit non, quand même, on parle pas évidemment du paiement des jours de grève. Mais aujourd'hui,
c'est pas facile à comprendre.
Dans les renégociations de fin de grève, effectivement, oui.
Personne ne trouve sérieux qu'on les paye. Deuxième chose, et là pour effectivement l'avenir du mouvement, si le 31 mai, je suis pas Madame Soleil, mais le jugement, la décision d'aujourd'hui est confirmée, donc pour l'instant quand même, un tribunal de prud'homme, c'est de la première instance, référé, c'est même encore un peu moins solide, enfin à un moment, il faudra d'ailleurs...
Ça peut être infirmé le 31 mai. Hein,
mais absolument, parce qu'en fait, il n'y a pas de base juridique vraiment solide, mais si c'est confirmé le 31 mai, ça veut dire que les cheminots qui avaient fait leur calcul de ce que la grève leur coûtait depuis 2 mois maintenant, ou 3 mois, vont voir l'addition doubler.
20%.
Voilà. Que ça, en termes de coût au moral, c'est pas mal. D'autre part, il y a eu le fameux rendez-vous de Matignon. Donc le jour où ils ont été reçus par Édouard Philippe, mais Édouard Philippe n'a absolument rien lâché. Troisième chose, pendant ce temps-là, le train parlementaire, lui, continue, à défaut du train tout court. Et ça veut dire que le 31 mai, ils vont se trouver quand même dans une conjonction de faits et de
tendu, voilà. Oui.
Donc, à mon sens, si c'est confirmé le 31 mai, il paraît qu'il y a des préavis jusqu'à fin juin, mais je pense qu'ils auront du mal à tenir leur gréviste jusque-là.
Il est 19h27. Que pense de ce dossier Alexandre Malafaye? Je lui pose la question juste après la pause et je vous précise que l'avion qui s'est écrasé au décollage sur l'aéroport de La Havane à Cuba cet après-midi était un avion de ligne cubain, un Boeing 737 de la Cubalín de Aviación, avec 104 passagers à bord. On ne sait pas encore pour l'instant s'il y a des survivants ou pas. La suite de RTL Soir dans un court instant, juste après la pause.
On refait le monde dans RTL Soir.
Bernard Poiret.
19h31 exactement. Si je ne m'abuse, Alexandre Malafaye, le président de Sinopia, est le seul à ne pas avoir parlé du jugement de référé aujourd'hui contre les 3 syndicats de cheminots de la SNCF. Je vous en prie.
Bien, attendons le résultat du 31 mai de voir si le
jugement l'important, hein.
Est confirmé, en tout cas dans les fondements, dans les principes. Mais si c'est confirmé, on pourra quand même dire qu'il y a une forme de justice. Je veux dire par là que à partir du moment où une grève coûte cher, et elle coûte cher aux Français, elle coûte cher à des quantités de Français auxquels il faut aussi penser. Oui, ouais, mais ces 300 millions d'euros, c'est l'argent de qui? C'est pas uniquement l'argent des entreprises, hein. C'est l'argent des chauffeurs de taxi.
D'autant que la dette de la SNCF va nous être transférée et que Philippe a déjà dit que ça serait pour nous.
Voilà, de toute façon, on paye toujours dans ces histoires.
Ça va être sévère.
Et là, il y a plein de Français qui payent, des restaurateurs, des hôteliers, des commerçants, qui payent le prix. Voilà. Donc d'une certaine façon, que les cheminots prennent leur part, et surtout, parce qu'il y avait un côté un peu absurde, alors il faut attendre le résultat, et c'est vrai qu'il y a toujours un risque juridique, mais qu'on puisse effectivement, entre guillemets, droit à des jours de repos en faisant grève, ça laisse un peu songeur. On sait bien qu'on en est en état de droit et qu'évidemment la mécanique juridique est souvent très complexe, mais c'est ça que je trouve effectivement assez dénonçable. Après, sur le fond, c'est vrai que j'ai un peu le sentiment qu'avec cette grève qui partait peut-être une bonne idée technique pour évidemment mettre de la pression dans la durée, quand même les cheminots et les syndicats les plus durs se sont quand même embarqués dans une aventure qui est qu'il y aura forcément un vainqueur et un perdant à l'issue, et si c'est les syndicats qui perdent la bataille, d'une certaine façon, ils auront sans doute du mal à s'en relever.
Il faut quand même noter, Alexandre, même si on peut contester sur le fond le principe de cette grève en morceaux, 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours, qu'elle reste unitaire. Après 7 semaines, c'est quand même pas rien. Il n'y a personne qui a lâché.
Mais parce qu'il y a un énorme enjeu.
Ils font tous encore grève.
À la fin, il va y avoir un gagnant et un perdant. Et c'est ça le terrible de ce genre de type de bataille, où véritablement vous dressez les citadelles les unes contre les autres, et puis il n'y a pas de compromis à l'issue, quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et il fallait peut-être que cette bataille ait lieu. C'est un peu dommage, parce que forcément, ça laisse des traces. Parce que ce projet-là, on l'a déjà dit, on le redit, on aurait sans doute pu vendre bien mieux le projet de cette transformation de la SNCF, y compris aux cheminots, pour les embarquer, leur faire prendre le train du changement, autrement que par j'en suis persuadé. Je pense que entre, si vous voulez, la totalité des cheminots qui sont peut-être aujourd'hui dans une mauvaise posture, et ceux qui auraient pu se rallier à la cause, il y avait, je pense, une population importante qui avait un coup à jouer, qui a été, je pense, très mal joué sur ce coup-là, parce qu'on a dit la réforme c'est le projet. Ben non, la réforme c'est pas le projet.
C'est la faute de Madame Borne. Philippe Bailly.
Pour confirmer ce que disait Alexandre sur ce pourquoi le Front Uni maintenu jusqu'au bout, parce qu'aussi le gouvernement n'a rien fait pour le coup pour le dissoudre. Il y a des conflits dans lesquels le gouvernement à un moment cherche à attirer à lui les syndicats réformistes, à leur lâcher des trucs pour les...
Là non, rien.
Retirer du mouvement, non. Ils ont rien lâché, mais comme avec un paradoxe qui reste, je dirais, on est maintenant mi-mai passé, et donc après quelques semaines quand même déjà de conflits, je me rappelle dans le même studio avoir débattu, c'était plutôt au début de la grève, et au fond, personne autour de la table, il y avait Jean-Luc Manot, on était quelques-uns, personne ne savait vraiment dire quels étaient les ressorts fondamentaux de la grève. Les cheminots d'aujourd'hui, ils sont pas concernés par le changement de statut,
et donc c'est tout
le corps social. Non mais ça veut dire que pendant 35-40 ans encore, l'essentiel du corps
social... Ceux qui ont été recrutés il y a 6 mois, ils sont encore...
Sur la portabilité des droits, donc pour ceux qui seront éventuellement filialisés, ils ont à peu près ce qu'ils veulent. Sur la dette, c'est à qui qu'elle est transférée. Encore une fois, on ne sait plus très bien non plus pourquoi il y a cette grève.
Il est 19h35 exactement sur RTL, et je passe sans attendre au deuxième thème qui est... plus léger, dirons-nous, quoique extrêmement polémique, puisque la grand roue de la Concorde, vous savez, elle est en cours de démontage, puisque c'est le dernier jour de son fonctionnement, et que la mairie de Paris a gagné en justice son bras de fer contre Monsieur Campion, qui est le patron de la roue. Aujourd'hui, c'est gratuit pour les Parisiens. Anastasia Colosimo, si vous voulez y aller, vous pouvez monter gratos.
Même une fête ce soir-là.
Absolument, il y a une grande fête. Donc la question est la suivante. Est-ce que ce bras de fer, qui a duré des mois, voire des années, si on remonte aux premières histoires, est-ce que ce bras de fer vous paraît bien futile? Cécile de Cesse, qu'en disent les internautes?
Bien, ils continuent à s'écharper sur le sujet. Hein. Ceux d'un côté qui détestent la roue, un objet moche, une roue Afrique et même une monstruosité. Jean-Yves se réjouit de retrouver la.
Ils sont jamais allés à Londres, ceux-là. Hein,
ça c'est vrai.
Sur la Tamise.
Jean-Yves se réjouit de retrouver la perspective de la place de l'Arc de Triomphe sans cette infâme roue métallique. Un autre internaute propose de la mettre à la Villette. Puis, il y a l'autre camp, celui qui défend la roue et selon qui cette roue est très belle et sa place est parfaite. C'est ridicule de la supprimer. Pour Boucheroux, Anne Hidalgo ne laisse à Paris que des rats et des poubelles dans les rues. Pour les trois derniers jours, l'accès était gratuit, comme vous l'avez dit Bernard, pour les Parisiens. Certains ont donc salué le geste de Marcel Campion. Heureusement, on a pu en profiter, conclut une utilisatrice.
Voilà ce que disent les internautes, 50-50 pour ou contre le démontage de la roue de M. Campion. Alors, je vous en prie, Anastasia, je ne sais pas si vous allez y aller tout à l'heure ou pas, mais enfin, fait est, l'histoire de la roue.
Qu'est-ce que vous... Mais déjà, la roue, elle est là quand même depuis 1993.
Oui.
Ça fait quand même un bout de temps. Moi, je ne me souviens pas, d'ailleurs, je n'ai pas de souvenir de la place de la Concorde sans la roue. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là.
Vous allez voir comme elle est belle sans la roue.
Ah, c'est ça. Non, alors ensuite, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est que Anne Hidalgo, ça a été quand même un des grands soutiens aux forains au début. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de règlement de compte, qu'on ne nous dit pas tout dans cette histoire, parce qu'il y a eu une sorte de revirement.
On cache tout.
Non, mais on nous cache tout. Il y a eu une sorte de revirement d'Hidalgo sur les forains, parce que la roue, ça vient après l'affaire du marché de Noël sur les Champs-Élysées. Et moi, s'il faut choisir.
Qui était quand même un peu frelatée, il faut le dire.
Non, mais moi, je ne suis pas une fanatique de la roue. Mais premièrement, ça, elle est là depuis longtemps. Deuxièmement, la préservation.
Du patrimoine. Plus à un marché de Noël français, quoi.
Ensuite, la préservation du patrimoine, je pense que c'est le faux argument qu'Anne Hidalgo a trouvé pour emmerder Marcel Campion. Et moi, s'il faut choisir quelqu'un entre Marcel Campion, c'était le PDG des Manouches, le roi des forains, et Anne Hidalgo, la chieuse professionnelle, je choisis toujours Marcel Campion.
Voilà. Ah, cette phrase, on va la garder pour le bêtisier de fin d'année. Entre le roi des forains et la chieuse professionnelle, je choisis Campion.
Bah non, mais quand même, on a envie d'être du côté de Marcel Campion dans cette affaire.
Oui et non, parce que si vous voulez Campion, moi je veux bien, mais enfin,
ça fait des années.
Il fait du coulage fiscal depuis des années.
Puis ça fait des années.
Mais c'est son métier.
C'est pas tolérable. Ensuite, ça fait des années qu'il fait le pan. Bah là, il fera plus la roue. Voilà. Donc ça, c'est quand même, voilà, d'une certaine façon, à un moment donné, toc, quoi. Bon, après, c'est un débat. Voilà, c'est un débat compliqué à trancher. Personnellement, et ça, c'est uniquement un avis personnel, une question de goût. Après, les motivations de la ville de Paris, elles sont sans doute effectivement pas aussi claires que ça. Maintenant, les motivations de M. Campion ne le sont pas non plus aussi, et sa façon de faire. Ses bras de fer, cette capacité, cette volonté de blocage. Rappelez-vous qu'à un moment donné, lui aussi, il a pris le parti d'essayer de bloquer Paris, d'emmerder les gens, etc. Tout ça pour défendre sa cause. Bah, tout le monde y va de façon de sa bonne volonté pour emmerder les Français quand il s'agit effectivement de défendre son intérêt corporatif. Ça, c'est toujours très agaçant. Mais au-delà de ça, c'est une question d'esthétique. Personnellement, je trouve que cette roue, elle serait mise simplement le long de la Seine.
Il y en a eu d'ailleurs dans le jardin des Tuileries.
Oui, oui, exactement. Et elle serait là, voilà. Et on la mettrait et on garderait dans cette perspective. Parce que cette roue, pardon, c'est pas la pyramide du Louvre, quoi. Elle peut avoir peut-être un certain charme, il va dire quelques temps, mais c'est pas la pyramide du Louvre, elle a pas l'esthétique. Et quand je vois dans la perspective de l'Arc de Triomphe, de la Concorde,
la perspective de l'Arc, elle est déjà fusillée par la défense. Hein.
Oui, non, mais mettez-vous à l'envers. Depuis l'Arc de Triomphe, quand vous regardez ça, que vous avez cette espèce de grande roue qui tourne, bon, ben voilà, elle serait sur le côté. Moi, j'ai pas de problème. Puis bon, que M. Campion fasse ses affaires comme il peut, de préférence de manière régulière et avec le fisc, ce serait encore idéalement. Mais bon, j'imagine que c'est parfait. Hein, je ne veux rien dire d'autre.
Libre Bailly, la roue.
J'ai pas le même sens de l'esthétique que mon camarade Malafaille, donc. Cette roue ne me dérange pas. Encore une fois, de la même manière que la roue sur la Tamise à Londres ne me dérange pas. Enfin bref, je dois être un peu circulaire comme garçon. Plus sérieusement, je rejoins totalement ce que disait Anastasia sur le dessous des cartes que je pressens sans être capable.
Il y a un truc qu'on nous dit pas.
Au départ, tout se passait bien. Comme ça a été rappelé, ça fait plus de 25 ans.
Tout ne se passait pas mal, dirons-nous.
Et tout à coup, non mais il y a eu une espèce de... Parce que la roue de la Concorde, c'est l'effet de traîne ou c'est la dernière étape, mais d'un démantèlement en règle des activités de Campion. Donc c'est la foire du trône, c'est il m'en manque une. Enfin bref, c'est le marché de Noël.
Marché de Noël.
Ouais. manifestement, Anne Hidalgo là, enfin, a aujourd'hui un souci avec lui. J'en connais pas le détail, mais ni les modalités. Je pense que ça peut doit pouvoir faire un polar assez croustillant.
Peut-être qu'il n'abonde plus la caisse noire de l'hôtel de ville. Enfin,
je ne suis même pas capable de supposer.
Financement occulte, non.
Non, c'est simplement un point, un dernier point. Alors, qui va rejoindre un peu celui de la chieuse professionnelle, c'est-à-dire que quand même Anne Hidalgo, elle a une image d'instit. Enfin, une image physique, mais elle a un management d'instit et plutôt 4e République. Plus de bagnole à Paris, ôtez-moi cette verrue qui défigure ma concorde. Ça va être un musée. Je veux dire, dans lequel circuleront des gens uniquement à pied. Enfin, non, c'est...
Non, à vélo,
et Campion aura sa statue à Grévin, et voilà.
Ah, mon Dieu, Marcel Campion au musée Grévin. 19h41, mes amis, vous savez qu'il nous reste deux thèmes à traiter. Vous
le dont savez, le mariage, hein. Le mariage.
N'oubliez pas, dont le mariage, le contrôle technique des bagnoles de mardi, et puis le mariage de demain. À tout de suite.
On refait le monde dans RTL Soir,
avec Bernard Poirette.
Avec Philippe Bailly, Alexandre Malafaï, Anastasia Colosimo, pour ce soir. Alors, écoutez, vous savez que à partir de lundi, mais comme c'est férié, ce sera mardi, il y a un nouveau contrôle technique des véhicules automobiles qui est en place en France. Beaucoup plus de points sont contrôlés, ce sera forcément un peu plus cher parce que les techniciens vont y passer un peu plus de temps et il y aura de nouvelles contraintes donc sur les automobilistes. Est-ce que c'est un mal nécessaire pour que le carnage routier s'arrête ou s'allège? Cécile de Sèze, qu'en pensent les internautes?
Bien, comme souvent, ils sont remontés. Beaucoup militent pour ne pas passer le contrôle technique, tout simplement. Pour un autre internaute, les jeunes ont moins de pouvoir d'achat et de sécurité financière et ont besoin de leur voiture. Ils seront les premières victimes. Jean-René a fait son contrôle technique avant le 21 mai. Il raconte « Contrôle effectué avant-hier, c'est 80 balles par an plus contre-visite. Tout est bon pour nous faire passer à la caisse. » Un dernier raconte comment les choses se passent de l'autre côté de la Manche. « Ici, il y a bien longtemps que la directive européenne est appliquée. Par contre, le contrôle coûte entre 35 et 45 euros. Alors pourquoi une telle différence avec la France ?» Il ajoute qu'en Grande-Bretagne, le contrôle se fait tous les ans pour les véhicules de plus de 3 ans et non 4.
Bon, en tout cas, ma ZX de 92 est passée au contrôle le mois dernier, avec un an d'avance. Au moins, je suis peinard pour 2 ans. Bon, écoutez, vous avez une minute chacun, je vous en prie. Alexandre, est-ce que c'est un petit racket de plus automobile, ou est-ce que pour faire baisser le nombre de morts, il faut en passer par là? C'est une directive européenne, hein, je précise.
Oui, alors, on aurait pu peut-être attendre un tout petit peu, parce que la complexité, toujours la complexité. Je rappelle qu'on est encore aussi en train de mettre en place, par exemple, le prélèvement à la source. On n'arrête pas de complexifier et on ne fait jamais de pause dans ce processus infernal. Après, le vrai problème, c'est de quoi parlons-nous? C'est qu'en fait, on est encore en train de pénaliser la très très grande majorité, parce qu'il y a une petite minorité, toute petite minorité, je crois que les chiffres, c'est 3% de gens qui ont vraiment des bagnoles qui sont dangereuses, et pour ces 3% de gens, des épaves qui roulent, et des gens qui sont pas responsables, et qui roulent avec effectivement, alors peut-être qu'il y a des problèmes économiques aussi, mais qui font pas attention, et qui pour le coup mettent la sécurité d'autrui en danger, et pour effectivement, pour eux ou à cause d'eux, effectivement, on durcit de plus en plus la règle générale. Et je pense qu'à un moment donné, voilà, quand on parle de vivre ensemble et d'apprendre à se respecter mutuellement, de respecter autrui, pour reprendre les propos du ministre de l'Éducation nationale, il y a un vrai boulot, parce que je pense qu'effectivement, cette irresponsabilité de quelques-uns passe son temps à durcir les règles générales.
Philippe Bailly, vous êtes sur cette ligne aussi ou pas?
Pas tout à fait. Je vais pas reprendre en tout cas ce sur quoi j'étais d'accord pour gagner du temps. Simplement, je trouve et pour élargir un peu la perspective, on pousse un état d'esprit anti-bagnole, mais qui se trouve dans la chasse au diesel, qui se trouve
dans la méchante Hidalgo.
Qui se trouve de la méchante Hidalgo.
Le nouveau système de cartes grises.
C'est là où tu voulais en venir.
Le nouveau système de cartes grises. Cette histoire de contrôle routier aujourd'hui.
Le passage à 80
km. Et en même temps, pour être macronien, on est dans un. Enfin, le gouvernement
reste la vache à lait de la République.
Non, mais d'une part, et puis surtout, et en parallèle, quand même, un des derniers secteur industriel dans lequel la France tient un rang mondial, c'est la bagnole, c'est la construction de voitures. Et ce que nous ont appris les Japonais historiquement, c'est qu'à un moment, pour être fort à l'international, on commence par construire ses champions nationaux sur le marché intérieur.
Oui.
Et je trouve qu'il y a un vrai paradoxe aujourd'hui, encore une fois, dans cette chasse à la bagnole qui est faite d'une succession de petites mesures, mais qui est surtout porteuse d'un état d'esprit négatif, et cette ambition par ailleurs économique.
Anastasia Colosimo.
Alors moi, je n'ai ni permis ni voiture, mais c'est je pense que si j'avais un permis et une voiture, je serais furieuse. Mais vraiment, 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 vraiment furieuse.
Elle
je
a pense qu'on comme est comme une pendule. Hein, moi, je pense
qu'il lui arrive. Non, mais j'ai très remonté parce que c'est vrai que c'est juste une espèce de politique anti-bagnole. Alors moi, je veux bien qu'on applique. En plus, ah, bon, ça rend très anti-européiste. En plus, on voit la directive, l'application de la directive. On passe à un truc démentiel. Le prix explose. Effectivement,
je suis
ça concerne
sûr
très peu de
gens,
personnes.
Les gens percutent sur l'Europe et disent ah, c'est à cause de Bruxelles. Je pense que c'est les politiques français qui en pâtissent.
Mais c'est aussi parce qu'il y a eu il y a le débat là, sur les 80 km par heure.
Oui, ça vient en plus.
Ça vient en plus, quoi. Ça se surajoute aux espèces de politiques anti-voiture. Sachant que moi, j'ai regardé les accidents de la route liés au défaut de véhicule, c'est 1%.
Je sais, oui, oui.
Donc,
c'est
je veux
vrai.
Dire, le problème, c'est les gens qui boivent, c'est les gens qui consomment du cannabis, c'est l'inattention, c'est la fatigue, c'est la vieillesse. Enfin,
c'est l'état des routes.
C'est complètement l'état des routes. Mais la question de l'état des bagnoles, c'est marginal. Donc, ça rend fou, ça rend un peu fou, on peut le dire, qu'on durcisse.
On réduit tout le temps les espaces de liberté.
D'autant mais que Bernard, sûr, vous avez parlé tout à l'heure de carnage routier, mais.
Entre 17 000 et 3 000, on a bien amélioré les choses en 45 ans, ça, je suis bien d'accord, hein.
On
mort,
est effectivement à 3000 morts par an, ce qui, enfin, c'est horrible de le dire dans ces termes, mais ce qui, quand on le compare aux autres causes de mortalité, je veux dire, la route, oui. C'est une petite cause de mortalité. Oui. C'est spectaculaire, etc. Mais encore une fois, c'est une petite cause de mortalité.
C'est vrai. Même si c'est dur à dire, le fait est que c'est la vérité. 19h49, et maintenant, c'est pour ça qu'ils sont venus, en fait, c'est pour parler du mariage. Demain, à tout de suite.
On refait le monde dans RTL Soir.
Bernard Poiret.
19h51, Philippe Bailly, Alexandre Malafaye, Anastasia Colosimo et Cécile de Sèze pour les internautes. Que disent les internautes, Cécile, de ce fameux mariage princier et surtout du tsunami médiatique qui l'accompagne? Est-ce que ça vaut un tel tsunami selon eux?
Alors, pour les internautes anglais, je ne sais pas, mais de ce côté de la Manche, ils ont du mal à rester polis. C'est peu dire que l'événement ne les passionne pas. J'ai dû faire un tri important pour garder les messages pas trop vulgaires. Qui s'en fout, demande l'un d'eux. Kamal répond qu'à force d'en parler, la majorité finira par croire que c'est important, intéressant et même essentiel. Bruno juge toute cette agitation consternante autour des têtes couronnées. Auguste ne comprend pas la fascination des gens pour un mariage auquel ils ne sont pas invités. Du coup, Émilie se demande si le fait d'être pressée de voir le mariage fait d'elle une fan à kitsch. Et Andrea répond à ses détracteurs. On ne vous impose pas de le regarder et de partager votre enthousiasme. Ne nous imposez pas votre cynisme.
En tout cas, moi je peux vous garantir que je connais des gens qui demain à 12h15 seront plantés devant leur écran. Il ne faudra pas les embêter. Ils ont coupé le portable et tout pour voir le mariage. Qu'en pensez-vous, vous, la fille là, de service, Anastasia?
Moi, en tant que gonzesse, j'adore. Je suis fan.
Il n'y a pas que les filles.
Avec un prénom pareil, c'est normal. Anastasia, prénom de princesse.
Donc, bah oui, en plus.
Bah, merci de souligner. Je n'osais pas, mais effectivement. Non, moi, je suis complètement fan. J'avais regardé le mariage déjà avec Kate Middleton. J'avais adoré. On se souvient tous de la chute de rein de Pippa Middleton, parce que c'est aussi ce genre de moment dont il faut se souvenir ensuite.
Pas dormi pendant 3 jours.
Bah, exactement. Voilà. Donc, c'est toujours c'est un moment fou. Je trouve qu'il y a une espèce de côté assez sublime dans la royauté britannique. En plus, il y a une série récemment qui est sortie qui s'appelle The Crown et que je recommande chaudement.
C'est
exceptionnel. Et justement, sur la difficulté de conserver la couronne, de la difficulté que ça va être aussi pour Meghan Markle, parce qu'on pense à elle.
Pas trop me dire.
À la fois, c'est génial, elle va être princesse, en même temps, c'est une vie très compliquée, la vie de princesse. C'est très difficile. Les riches aussi pleurent. Donc, c'est génial. Moi, je pense qu'il faut regarder en direct, comme un fou avec du pop-corn.
Donc, vous, demain, vous êtes débranché. Elle est débranchée. Anastasia Colosimo, vous la cherchez pas demain à partir de 12h15. Et vous, Alexandre?
Je trouve que.
Il va nous dire que oui.
En plein, sur un plan géopolitique, en plein Brexit, Ce coup de monarchie à quelque chose de génial, quoi. C'est-à-dire que je sais pas s'ils ont fait volontairement exprès mais ça redonne effectivement au peuple britannique, à la nation britannique, ça lui redonne un coup de projecteur. Et puis finalement, c'est quand on raisonne en termes d'influence de ce point de vue-là, c'est remarquable. Enfin, tout ce qui tourne autour de la couronne, si on prend un peu de recul par rapport aux problématiques monarchiques telles que nous on les aborde, parce qu'on a coupé la tête de nos rois, il n'empêche que
ils
quelque
ont coupé
part
avant nous la tête de leur roi,
oui,
Charles
oui,
Ier.
Hein. Oui, mais bon, ils sont même restés très attachés au système, ils n'ont pas été aussi loin que nous, ils ont d'antan fait le ménage, mais ils ont quand même gardé l'attachement aussi, ils ont compris l'intérêt du système, et quand vous voyez effectivement tout ce à quoi ça renvoie, c'est-à-dire derrière le Commonwealth, c'est encore une capacité d'influence qui est réelle, je trouve que finalement, ils jouent très très bien leur partie, et de ce point de vue-là, au-delà effectivement des aspects, des belles images, voilà, ce coup de monarchine, il est formidable, moi je dis bravo les Britanniques, et c'est vrai que j'aurais plaisir à regarder ces belles images, parce que les images sont belles, tout simplement, parce
qu'à un moment donné,
et en plus peut-être qu'il va pas pleuvoir, coup de bol.
Après, de temps en temps, il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas drôles. Alors après, on peut dire oui, nous voilà. Bon, ok, mais c'est joli. Réjouissons-nous quand ça brille un peu, que c'est joli, quoi.
Philippe Bailly, vous avez le dernier mot en 1:30.
Non, mais effectivement, d'abord, si vous regardez, regardez le couronnement d'Elisabeth II commenté par Léon Zitrone, les images étaient moins belles quand même.
C'était en noir et blanc, surtout.
Oui, c'est vrai que c'est beau. Non,
c'était simplement. C'était une grande première.
Absolument, c'est le premier grand événement en live retransmis à la télé. Cela étant. On regarde les autres, regardons-nous un petit peu. Tous les ans, il y a les deux premières chaînes, et éventuellement les chaînes d'info, qui sont mobilisées pour le défilé du 14 juillet. Tous les 5 ans, pour la remontée des Champs-Élysées par le nouveau président de la République. Et c'est quand même pas hyper glamour.
C'est vrai.
Et ça fait quand même événement, ça fait émulsion, etc.
C'est pas regardé dans le monde entier.
Donc, là, et puis, l'autre truc que je m'étais promis de regarder, et malheureusement j'ai oublié, c'était le nombre de vidéos vues du fameux « Allô, t'as pas de shampoing » de Nabila. Enfin, je veux dire, on a nous aussi nos...
Je me garderai bien.
Exactement, je me garderai bien de donner des leçons aux Anglais. Je suis pas sûr de passer toute ma journée demain devant la télé, mais je comprends très bien que ça fait rien. Et le Paris match de la semaine prochaine me suffira, je pense.
Excellent. Il est 19h56. En tout cas, merci d'être venu refaire le monde à ce micro de RTL. Philippe Bailly, Alexandre Malafaï, Anastasia Colosimo et Cécile de 16. Anastasia, en plus, demain, double jackpot parce que après le mariage, il y a Cannes.
Oui,
vous savez que très grande journée.
N'oubliez
pas, exceptionnellement, ce sera samedi soir, le palmarès, plutôt qu'un dimanche soir. Donc ça va être une très très grande journée.
Faut pas oublier les pop-corns.
N'oubliez rien, les pop-corns, la bière, etc., etc. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Je reste là pendant la pause. Après ça, je vais faire les relances du flash de 20h. Et ensuite, nous retrouverons assurément l'heure du crime sur RTL. Niark, niark, niark.
Vous écoutez RTL.